économique.
On est avec le diplo du mois de mars et au téléphone à Jérusalem, nous avons Charles Anderlin. Charles Anderlin, vous le connaissez, vous vous souvenez de la tête de Charles Anderlin si vous aviez France 2 dans votre télévision. De 1981 à 2015, Charles Anderlin a couvert l'actualité israélo-palestinienne, on va dire. Et puis il s'est rendu célèbre, ou on l'a rendu célèbre, en 2000, suite à ce qu'on a appelé l'affaire Mohamed Al-Doura. Il a été poursuivi par un certain Carsanti à l'époque. Ça a été une longue histoire qui a duré des années. Il avait été accusé de manipulation suite à la mort de ce gamin. Eh bien, l'histoire a fait long feu, puisqu'à la fin, son poursuivant, disons, a été condamné. L'histoire s'est terminée par un livre de Charles Anderlin qui s'intitule « Un enfant est mort » et qui a été publié en 2010. Mais Anderlin est toujours sur le pont, si on peut dire, et donne dans le diplôme de ce mois-ci un papier qui fait assez peur, qui s'intitule « Israël à l'heure de l'Inquisition ». Et s'il y a une chose que les critiques les plus acerbes de la politique israélienne sont d'accord pour reconnaître, c'est quand même une certaine démocratie, un certain respect des opposants en Israël. Or, Charles Anderlin, ce que vous dites dans votre papier, c'est que ça a l'air d'être terminé, cette histoire. Israël à l'heure de l'Inquisition.
Oui, enfin, on avait pas mal discuté du titre. Il n'y avait pas la place pour mettre à l'heure du maccartisme. Ce n'est pas vraiment l'Inquisition, c'est certainement le maccartisme. La démocratie israélienne, effectivement, est en crise. La droite au pouvoir avec l'extrême droite, les ultra-orthodoxes, les sionistes religieux, est en train littéralement d'essayer de transformer l'esprit démocratique d'Israël avec un certain nombre de projets et de propositions de loi destinées à museler les organisations de gauche, les organisations qui défendent les droits de l'homme, notamment en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, dans les territoires occupés, pour ne pas parler des citoyens arabes de l'État d'Israël.
Donc ça tape assez fort quand même, hein ?
Ah ben écoutez, oui, il y a à la fois une offensive qui est législative, des textes qui sont présentés, la coalition au pouvoir à la majorité, à la Knesset, le Parlement, et les choses passent assez vite, du moins si le Premier ministre Benjamin Netanyahou le décide. Mais en parallèle, on a des organisations de droite et d'extrême droite qui lancent, notamment sur Internet, de véritables campagnes accusatoires contre les responsables d'organisations de gauche, que ce soit les militaires contre le silence, vous savez, ces vétérans de l'armée israélienne qui viennent témoigner sur ce qui s'est passé, sur les bavures de l'époque où ils ont fait leur service militaire. Ils se présentent comme des patriotes qui rejettent d'ailleurs même tout boycott de l'État d'Israël par l'organisation BDS, contre l'organisation B'Tselem qui œuvre pour défendre les droits de l'homme dans les territoires palestiniens, etc., etc. Ces responsables d'ONG sont qualifiés de taupes, littéralement de traîtres, qui agissent pour le compte des ennemis d'Israël. Et c'est qui les ennemis d'Israël ? L'Union européenne, la Norvège, la Hollande, on croit rêver.
On revient d'abord sur cette décision hier de l'Union européenne d'étiqueter les produits originaires des colonies israéliennes dans les territoires occupés.
France 24.
Cette mesure a été aussitôt dénoncée par Israël.
12 novembre 2015.
Benjamin Netanyahou a invoqué une nouvelle fois le spectre de l'antisémitisme nazi et décidé de suspendre le dialogue diplomatique avec l'UE. À la une ce matin du Jérusalem Post, le rejet par l'État hébreu de cette directive européenne, perçue par le négociateur en chef palestinien Saeb Erekat comme un premier pas vers le boycott, ce que réfute totalement l'Union européenne. Peu importe, pour le Jérusalem Post, son initiative est une trahison à laquelle les Israéliens sont invités à réagir dans l'unité pour présenter désormais leurs arguments et la nature criminelle de leurs adversaires, je cite, de façon beaucoup plus agressive.
Comment réagit l'opinion ? Parce que vous racontez, c'est très extrémiste tout ça. Est-ce que l'opinion marche ou bien ?
L'opinion israélienne est à droite. L'opinion israélienne, aujourd'hui, je cite d'ailleurs des sondages et des analyses sociologiques, ce n'est plus du tout l'Israël d'il y a 20-25 ans. c'est un État d'Israël qui est d'abord beaucoup plus à droite, qui est beaucoup plus proche de la religion ou de la tradition. Vous savez, une grande professeure de sociologie, Tamar Herman, considère qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler d'un affrontement entre gauche et droite en Israël, entre pro ou anti-paix, mais littéralement entre les gens qui sont pro ou contre la démocratie. Et le sondage qu'elle nous donne, c'est que, en fait, les Israéliens juifs qui sont aujourd'hui universalistes, libéraux et ont une vision très démocratique de la société, ils représentent à peu près 20% du public juif de l'État d'Israël. Ce sont des grandes transformations qui se passent ici. Et d'ailleurs, on voit régulièrement des choses se transformer. Par exemple, nous avons en Israël une ministre de la Culture qui a décidé que son ministère ne donnera de subventions qu'à des artistes, des cinéastes, des écrivains, des éditeurs, que s'ils font preuve d'un loyalisme culturel envers l'État.
Comment on réagit à l'étranger ? Comment on réagit en France ? Comment on réagit aux États-Unis ? Je sais bien que vous êtes en Israël, mais il y a un jeu de miroir, un jeu de retour comme ça.
Écoutez, les États-Unis, on a des échos qui viennent surtout des jeunes de la grande communauté juive américaine, notamment dans les campus. Il y a aujourd'hui dans le quotidien Haaretz une grande analyse d'un rabbin réformé, libéral, qui critique la politique du gouvernement israélien en disant qu'en fait, le problème de la démocratie en Israël, le problème de l'occupation des territoires palestiniens, éloigne la jeunesse juive d'Israël.
On a eu récemment à Paris, ces jours derniers, le dîner annuel du CRIF, au cours duquel le Premier ministre Manuel Valls a rappelé quelque chose qui est une de ses convictions, c'est que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme.
Il y a l'antisémitisme des beaux quartiers.
Manuel Valls.
Et il y a aussi
dîner du CRIF.
L'antisémitisme dans les quartiers populaires d'une jeunesse radicalisée.
7 mars 2016.
Et puis, il y a la haine d'Israël. Il y a l'antisémitisme. Et il y a l'antisionisme, c'est-à-dire tout simplement le synonyme de l'antisémitisme et de la haine d'Israël.
Il n'a pas du tout parlé de ce dont vous parlez, Charles Anderlin.
Bah écoutez, effectivement, on ne parle pas aujourd'hui, pratiquement dans la presse française, des affaires intérieures israéliennes, pour toutes sortes de raisons. Et en tout cas, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce papier et décrire aujourd'hui le véritable combat à l'intérieur d'Israël entre gauche et droite, entre pro-démocratie et anti-démocrate. Maintenant, la petite phrase du Premier ministre, je crois qu'il a d'ailleurs été très critiqué. Vous savez, mélanger systématiquement l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est un problème. Il y a eu des grandes organisations juives antisionistes. Lors de la création du mouvement sioniste au début du siècle dernier, la majeure partie des juifs de France étaient antisionistes. Alors aujourd'hui qu'il y ait des organisations effectivement qui utilisent leur rejet d'Israël et de la politique israélienne à des fins antisémites, je suppose et je vois que cela existe aussi.
Alors, revenons à votre papier sur la montée du maccartisme en Israël ou de l'Inquisition, comme on voudra. Évidemment que tout ça nous éloigne d'une possibilité de paix ou d'entente avec le camp palestinien.
Écoutez, 400 000 Israéliens habitant 60% de la Cisjordanie, tous leurs supporters, tous leurs partisans à l'intérieur même du territoire israélien, je ne vois pas comment on pourra les évacuer d'une manière ou d'une autre, ou même un pourcentage quelconque de ces gens-là. De toute manière, il faut bien comprendre que la plateforme idéologique, politique de ce gouvernement et de tous les partis politiques qui composent cette coalition gouvernementale ne prévoit absolument pas la création d'un État palestinien avec la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Ce n'est pas du tout leur but. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit très bien la colonisation se poursuit. Et d'ailleurs, du côté palestinien, il n'y a pas actuellement beaucoup d'efforts pour aller dans le sens d'une négociation quelconque avec Israël.
Assez sombre votre constat quand même, Charles.
Je crois qu'il n'est pas sombre, je crois qu'il est réaliste. Il faut oublier l'idée que l'on avance rapidement vers une solution à deux États. Au contraire, de plus en plus de personnalités israéliennes, y compris à droite, réalisent que la solution à deux États est sinon morte, du moins agonisante, et que la région va vers un État binational, ce qui sera, d'après moi, une catastrophe pour l'État d'Israël, pour la vision d'un sionisme libéral avec une majorité juive, d'un État tel que Theodor Herzl l'envisageait, où il y aurait une certaine égalité sociale, où par exemple le vice-président serait un arabe, où les rabbins resteraient dans les synagogues et les généraux dans les casernes. Cette vision du sionisme libéral de Theodor Herzl est en train tout simplement de s'évaporer dans la région.
Vous y avez cru ça dans votre jeunesse, Charles? Je rappelle que vous avez été correspondant de France 2.
Je voudrais y croire encore.
Ouais, mais là vous n'y croyez plus du tout, là, c'est fini.
Je constate qu'on n'y va pas. Je constate qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Il ne faut jamais dire totalement impossible dans cette région parce qu'on est régulièrement surpris.
Voilà, on va finir sur ce mot-là. On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, mais c'est vraiment histoire de finir sur une note d'espoir. Charles Anderlin, merci.
Merci, bonne soirée, au revoir.
On est perdu, on ne croit plus rien. Même les vieux, ils ont capté. Qu'en fait, notre président, c'est pas lui qui dirige vraiment. Que nos vrais chefs, c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui. Et c'est pour ça, droite ou gauche, eh ben non, ça reste à droite. Même ma mère, elle a capté que la crise n'existe pas, que c'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux Chinois. Tout le monde sait qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours. Tout le monde a compris que les infos, ça sert juste à nous faire peur en nous montrant la merde des autres pour qu'on se contente de la note. Alors vous, les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Construisez vos piscines en fermant nos usines. Mais putain, faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Servez-vous dans nos frigos, nos impôts c'est déjà cadeau. Mais faites-nous croire qu'il y a des martiens, ça fera moins peur que croire en rien. Même les gamins dans les écoles demandent qu'à croire cette histoire, que si au pays des barbus, il y en a qui nous veulent pas du bien, c'est juste à cause d'une religion, et donc ça n'a aucun lien avec les militaires qu'on leur envoie régulièrement pour leur bien. Manipulez-nous mieux, c'est moi le chanteur, manipulez-nous mieux. Allez, juste un petit effort, on vous demande pas grand-chose. Vous savez aussi bien que nous qu'on n'a pas inventé l'eau chaude. La plupart d'entre nous, on aime bien se contenter de peu. On cherche pas à réussir et encore moins à diriger. On n'a pas très envie de passer à la télé et encore moins envie d'être reconnu dans la rue. La plupart d'entre nous, on saurait pas quoi foutre d'un yacht. On s'en fout royalement de laisser notre nom dans l'histoire. On voit pas l'intérêt d'accumuler autant de milliards. Et c'est peut-être ça qui prouve que par rapport à vous, en fait, si ça se trouve, en fait, c'est nous qu'on est évolué.